J'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
d'accord. Moi, c'est André de Moumaï, au Katanga oriental. Je réfute totalement ces questions.
Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette édition spéciale Parole aux auditeurs en direct de la salle des conférences de la MONUSCO à Utrecht, Afrique, ici à Kinshasa. Aujourd'hui, nous vous parlons de l'intégration sociale des personnes vivantes avec albinisme à NRDC, mais également de problèmes que ces personnes rencontrent pour l'accès à l'éducation. Ceci en marge de la journée internationale des sensibilisations sur l'albinisme célébrée le 13 juin de chaque année à NRDC. Les personnes vivant avec albinisme sont victimes de toutes sortes de stigmatisations à cause des idées reçues sur les retards physiques. Il y a également leur scolarité qui pose problème. Et pourtant, il y en a celles qui ont pu s'intégrer et s'affirmer au sein de la société après avoir suivi un cursus universitaire ou simplement après avoir appris un métier. Que pensez-vous de l'intégration sociale des personnes vivant avec albinisme en RDC? Eh bien, nous en parlons dans cette édition spéciale Parole aux auditeurs avec nos invités pour animer cette émission. J'ai à mes côtés Blessing Kassassi. Elle est activiste sociale des droits des personnes vivant avec albinisme. Bonjour Blessing.
Bonjour Monsieur Marcel et bonjour à tous les publics.
Vous êtes en forme, j'espère?
Oui, très bien, merci.
Voilà, je suis également en forme et c'est un plaisir de vous avoir dans ce plateau spécial. Vous voulez bien applaudir pour Blessing Kassassi? Voilà. Merci, merci de vos applaudissements. Et merci à toute l'équipe de production, Blaise Shindani, Julie Feza Bongonda. Merci à Hippolyte Kapanga, également à Patrick Kiasongwa. Nous disons merci également à l'équipe de Bureau Conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme avec qui est notre partenaire pour cette édition spéciale Parole aux auditeurs depuis la salle de conférence Utrecht Africa, de la MONUSCO Utrecht Africa, ici à Kinshasa. Encore une fois, sous vos applaudissements. Merci de votre fidélité à Radio Capi, la fréquence de la paix. Bienvenue si vous nous rejoignez. Nous parlons aujourd'hui de l'intégration sociale des personnes vivant avec albinisme en RDC. Comme vous le savez, la personne albinos vit souvent en marge de la société à cause des idées reçues. Et cette année 2024, le monde a célébré le 13 juin dernier la journée internationale des personnes atteintes d'albinisme avec comme thème 10 ans de journée internationale de sensibilisation à l'albinisme, une décennie de progrès.
Oui, exactement. Il faut les rappeler, Marcel, que c'est depuis juin 2014 que cette journée a été lancée avec comme objectif d'amplifier la voix et la visibilité de personnes atteintes d'albinisme dans tous les domaines de la vie.
Voilà. Compris, depuis le 13 juin 2014, ça fait 10 ans qu'a été lancée cette journée de sensibilisation sur les personnes atteintes d'albinisme chaque 13 juin de l'année. Alors, Blessing, pour aborder cette question, nous avons le plaisir d'avoir sur ce plateau Madame Brigitte Ieli, doctorante en anthropologie à l'Université de Kinshasa, avec elle nous allons parler de l'intégration sociale des personnes vivant avec l'albinisme en RDC. Bonjour Madame Brigitte Ieli.
Bonjour Monsieur le journaliste.
Voilà. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Si vous voulez bien l'encourager, l'applaudir. Nous avons également un autre invité, ce monsieur Chad. Il est pédagogue. Avec nous, nous parlons des défis que rencontrent les personnes vivant avec albinisme pour leur éducation. Monsieur Chad, bonjour.
Bonjour monsieur Marcel. Bonjour à tous. C'est monsieur Chad, Chad Damo.
Merci également de l'applaudir très fort pour l'encourager. Alors, merci également au public qui est présent. Ça nous fait plaisir que vous soyez nombreux à répondre à cette invitation du Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme, ceci en marge de la journée internationale des sensibilisations à l'albinisme. Et d'entrée de jeu, cette première question, je me tourne vers Madame Brigitte Ieli. Alors, Madame, vous êtes doctorante en anthropologie à l'Université de Kinshasa. Aujourd'hui,
disons depuis le 13 juin dernier, c'est 10 ans de sensibilisation sur la personne vivant avec albinisme. On peut se dire qu'il a des avancées sur l'intégration sociale.
Merci pour la question. Les avancées, il y en a progressivement, mais il faut dire que c'est assez lent, les avancées qu'on est en train d'enregistrer, et tellement que les pesanteurs culturels sont en train de retenir la bonne volonté, toutes les initiatives qu'on est en train de prendre pour promouvoir la personne vivant avec albinisme. Donc les avancées sont là, mais c'est vraiment très lent.
Alors, vous avez parlé des pesanteurs. Est-ce qu'on peut avoir une idée par rapport à ces pesanteurs? Parce que il y a beaucoup d'idées reçues sur la personne albinos, alors que c'est une personne tout autre et qui a droit, comme toutes les autres personnes, à la santé, à l'éducation, et pourquoi pas aussi à qui doit être intégré socialement.
Pour parler des pesanteurs culturels, il faudrait d'abord noter que nous avons en face de nous, dans la société, nous avons des personnes dites mélanodermes et qui ont la peau noire, et nous avons des personnes qui vivent avec l'albinisme. Et couramment, on parle de personnes albinos, mais beaucoup de gens, beaucoup de chercheurs, beaucoup d'associations ou d'organismes qui travaillent pour la défense des droits de cette catégorie sociale ne veulent pas trop parler des albinos parce qu'on dit que c'est trop péjoratif. On aime parler de personnes vivant avec albinisme. Donc, ce que je voulais dire par pesanteur culturel, il faudra noter que dans nos sociocultures, il y a une bonne représentation sociale des personnes vivant avec albinisme. Et quand je parle de représentation sociale, il faudrait se mettre en tête que ce sont des images décalées que nous faisons de la réalité de personnes vivant avec albinisme. C'est-à-dire quoi? Des personnes que nous disons avec albinisme, ce sont des êtres humains pourvus de capacités, pourvus de facultés comme tout être humain. Mais à la seule différence que leur peau diffère de la peau de personnes, la peau noire, et ils ont des problèmes de yeux, ils ont des problèmes avec leurs cheveux, ainsi de suite. C'est cette représentation physique qui cause la différence et qui est également à la base de ce que j'appellerais discrimination et ce que j'appellerais également les pesanteurs culturels. Et pour revenir à votre question qui consiste à savoir quels sont les pesanteurs culturels qu'on peut énumérer ou qu'on peut lister par rapport à la question de l'albinisme, et il faut entrer dans la culture congolaise. Il faut entrer dans les sociocultures congolaises. Et là-dessus, nous savons tous que quand il y a une naissance d'un enfant qui vit avec albinisme, il y a autant de perceptions, il y a des préjugés, il y a des stéréotypes. On dit, par exemple, il représente la malchance. On dit, c'est une personne qu'il y a des puissances nuisibles. Donc, il est susceptible de nuire à la famille, il est susceptible de nuire à la communauté. Il apporte la malchance, je l'ai dit, mais aussi sur le plan économique, on dirait que c'est une dépense parce qu'il faut avoir un peu de fric pour entretenir sa peau, ainsi de suite. Et tout cela réuni fait que les gens essayent un peu d'éviter. Par rapport à cette différence qu'on ne s'y attendait pas, on pensait que tout le monde allait naître de la même manière comme Dieu voulait, mais quand on voit cette différence-là, ça choque, et ça fait qu'il y ait autant de discriminations, mais aussi des représentations sociales, comme je viens de le dire, et qui amènent à la discrimination.
Oui, exactement, madame, par rapport à ce que vous venez de dire. Pouvez-vous retracer l'origine exacte de croyances que l'on s'est fait sur les personnes vivant avec albinisme aujourd'hui en RDC?
L'origine, il faut dire que depuis que le monde existe, il y a ce problème. S'il faut bien voir les choses, la première tentative de réponse, c'est l'inacceptation de la différence par les personnes mélanodermes, qui ont la peau noire. Ça, c'est psychologique même. On s'attend à avoir un enfant de peau noire et du coup, la maman qui donne naissance, il donne naissance à un enfant de la peau blanche. Dans le passé, après le colonialisme, les gens croyaient que la maman aurait connu des rapports sexuels avec un blanc et c'est comme cela qu'il y a eu un blanc. Et par la suite, on va réaliser, non, c'est pas un blanc qui vient d'un pays colonial, mais c'est une sorte de race. Et si vous parcourez les écritures, vous allez voir que les premiers observateurs qui sont arrivés dans nos pays, quand ils ont vu la couleur de la peau, ils ont d'abord déclaré que c'était une race à part. Et après, ils ont dit non, c'est pas une race à part, mais on cherche à comprendre, nous pensons que ce sont des idiots. Et ce sont des idiots propres aux nègres. Et après, dans l'évolution des choses, ils vont dire non, c'est carrément des imbéciles. Et ça, ce sont les premiers observateurs qui sont atterris dans nos pays, qui ont conçu cela. Et cela a rencontré déjà la perception sociale qui était dans nos pays, au temps de nos ancêtres, qui disaient que ce sont des revenants, ce sont des personnes qui ont de mauvais sorts, ce sont des personnes qui ont une puissance supérieure, une force de nuire, ce sont des sorciers. Et tout cela se sont mis ensemble et se sont conjugués pour mettre à l'écart, pour créer la marginalité de personnes vivant avec albinisme.
Voilà, ça c'est des explications par rapport à l'origine même de toutes ces idées reçues. Alors madame, s'il faut parler des avancées, c'est vrai que chaque 13 juin, il y a cette journée de sensibilisation sur la personne vivant avec albinisme. Alors maintenant, s'il faut continuer davantage à sensibiliser, qu'est-ce qu'on peut préconiser pour qu'enfin que tout le monde comprenne que les personnes vivant avec albinisme sont des personnes comme les autres et doivent bénéficier de tous les droits reconnus à tous les êtres humains.
Je dirais que la population doit d'abord comprendre ce que c'est l'albinisme. Un. De deux, la population doit également comprendre la provenance de l'albinisme. Parce que on s'est dit, l'albinisme, ce sont des ancêtres qui reviennent. L'albinisme, c'est une malédiction. L'albinisme, c'est une sanction divine, ainsi de suite. La population doit comprendre tout cela avant d'évoluer vers le respect des droits des personnes vivant avec albinisme. Et la population doit aussi, moi je pense que il faut vraiment de recherche sur la question. Parce que la recherche va établir noir sur blanc l'origine et pourquoi ces personnes ont la peau blanche. Et c'est sur base de cela qu'on peut bien sensibiliser. Parce qu'on peut aller dans une foule, dans une masse, en train de dire il faut accepter les personnes vivant avec albinisme, ils sont nos frères, ils sont des gens comme nous, etc. Mais vous ne touchez pas au fond du problème. Le fond du problème, c'est cette inacceptation. Et cette inacceptation relève de nos cultures. Et cette culture, c'est cette culture-là qui dit qu'ils sont différents de nous parce qu'ils sont des revenants, parce que c'est une sanction, parce que c'est une malédiction, ainsi de suite. Donc, faut partir de ce fond-là pour faire comprendre aux gens que c'est une pathologie scientifiquement prouvée et ça n'a rien à voir avec ces représentations discriminantes, avec ces représentations aliénantes et même ces discriminations qui tuent la personne avec albinisme.
Donc, continuer à sensibiliser. On va, à Madame Brigitte Illy, comme vous le savez, nous avons également sur ce plateau Monsieur Chad qui est pédagogue. On va revenir à lui, mais comme je le dis, on va aborder les deux sujets. Ça va permettre après au public de réagir. Là, maintenant, je vais laisser la parole à Blessing Kassassi qui va encore poser deux questions à Madame Brigitte Illy. Et puis, ça sera le tour de Monsieur Chad.
Oui, exactement. Je rappelle que Madame Brigitte Illy œuvre aussi dans le domaine de la psychologie. Alors, qu'est-ce que nous pouvons savoir
ou dans quelle étape psychologique sont des personnes atteintes d'albinisme au vu de toutes ces stigmatisations ou de tous ces préjugés dont ils subissent au quotidien?
L'état psychologique. Vous savez que l'enfant s'est construit dès le sein maternel. Et quand on met au monde, l'accueil de l'enfant est un aspect important pour la construction de la personnalité de l'enfant. Et ce qui se fait, c'est que déjà de la naissance, il y a un problème. Nous avons rencontré, nous avons eu la chance de nous entretenir avec quelques enfants albinos ou atteints d'albinisme. Nous avons eu le temps de nous entretenir avec quelques enfants. Et ce qu'ils nous ont dit, je pars de récits de vie. Il y a un enfant qui me dit, voilà, moi je vivais dans les environs de Bujumbura avec mes parents, et là, la question d'albinisme est très cruciale. On ne nous accepte pas, on nous tue, et on vient vers nous parce que on pense que nous sommes, au même moment qu'on dit que ces gens sont de porte-malheur, au même moment, on pense qu'ils sont de porte-bonheur, mais le porte-bonheur dans le sens où il faut les tuer, prendre certains organes pour s'enrichir, pour avoir le succès, ainsi de suite. Et l'enfant me dira que depuis sa naissance, il n'a jamais été accepté dans la famille. Il y avait toujours des problèmes entre son père et sa mère parce que son père n'acceptait pas et il donnait toute la responsabilité à la maman. Et c'était, on doit chasser l'enfant, il faut qu'il quitte la maison. Et la maman en avait marre à un moment, il prend l'enfant, il dit, bon, on va faire un Bujumbura. Et il partait à pied, c'était dans la soirée, et ils arrivent quelque part, la maman quitte la grande voie, il prend les sentiers, il vraiment entre dans la brousse, et il arrive quelque part là, il abandonne l'enfant. L'enfant avait autour de 5-6 ans. Il abandonne l'enfant, espérant que l'enfant sera dévoré par les bêtes sauvages comme ça, il en a quitté et il restera calmement dans son mariage. Et voilà comment nous traitons les enfants. Pourquoi n'acceptons-nous pas les enfants? Et un enfant qui a déjà expérimenté cette façon de faire, vous voyez que son psychique est déjà entaché. C'est quelqu'un qui sait que moi je ne suis pas aimé. Déjà à partir de ma famille, ils passent sur la route, ce sont des insultes, ce sont des provocations. Il va à l'école, on l'accepte pas. Il entre dans un bus, les gens n'aiment pas être vraiment à son côté, les gens se bousculent et laissent un peu de l'espace là-bas. Vous voyez ce que ça construit dans le mental de l'enfant qui va grandir, et il va grandir avec cette conviction que je ne suis pas acceptée, je ne suis pas aimée, je ne suis pas capable, on m'injurie à tout moment. Et c'est cette psychologie-là qu'il faut travailler sur ça pour des personnes vivant avec albinisme. Il faut travailler sur ça. Ils ne sont pas des incapables comme on le dit. Ils ne sont pas malpropres comme on le dit. Ils n'ont pas la force, ils ne sont pas porteurs de force nuisible comme on le dit. Et je vous donne un cas. La semaine passée, j'ai animé une conférence à l'Institut français de Kinshasa sur la question du handicap. Et c'était tellement scientifique, je mène des recherches, je viens, je parle, et il y avait un public comme ça. Et je vois, c'était pas une personne atteinte d'albinisme, mais c'était une personne avec handicap, que tout le monde pouvait négliger, parce qu'on sait aussi que ce sont des incapables, c'est des gens, c'est des vauriens, ainsi de suite. Le monsieur soulève la main, et dès que vous le voyez, vous le déclassez, comme nous on le fait toujours. Dès que vous le voyez, vous le déclassez, il peut rien faire, il peut rien dire d'intéressant. Mais il me dit, madame, je vais contribuer à votre recherche. Est-ce que vous savez que Zamenga a écrit sur le handicap? Je vous recommande de lire. Donc c'est pour dire qu'ils ne sont pas des incapables. C'est nous qui les rendons incapables. Le handicap, l'albinisme tel qu'on dit, cette marginalité, ça vient de la société. Donc il faut construire la psychologie de l'enfant dès son bas âge, de sa naissance, commencer à le construire, commencer à l'animer, commencer à lui dire que tu es valable, tu es capable, tu es ceci. Et en psychologie, en psychanalyse, on appelle ça les tuteurs de résilience. C'est ça qui manque dans notre société. On a besoin des tuteurs de résilience. Les tuteurs de résilience commencent par la famille. Les parents doivent accepter, les frères et sœurs dans la famille, à l'école, les enseignants sont des tuteurs de résilience, dans la communauté. On a besoin des tuteurs de résilience, l'employeur, c'est un tuteur de résilience, l'État, c'est un tuteur de résilience. Si tout le monde comprend que l'enfant avec albinisme ou la personne avec albinisme est capable et que la couleur de sa peau n'a rien à voir avec son intelligence, n'a rien à voir avec sa tête, en tout cas nous allons vraiment construire une société inclusive cette fois-là où on mettra personne dehors.
Oui, rapidement, et d'après ce que vous venez de dire, nous avons constaté que le grand défi des personnes atteintes d'albinisme n'est pas vraiment eux-mêmes, mais c'est plutôt leur entourage. Alors, quelle attitude doit afficher leur environnement, leur entourage envers ces derniers?
L'entourage, c'est ce que je viens de dire. L'entourage doit être préparé. Vous voyez, c'est quelque chose qui date de l'ancien temps. Cette représentation sociale aliénante, cette représentation sociale qui tue, cette représentation sociale suicidaire, ça date, ça ne commence pas aujourd'hui. Et ça traversait de génération en génération dans notre culture. Donc, pour construire la personnalité, je l'ai dit, il faut travailler avec l'entourage. C'est ce que j'ai appelé les tuteurs de résilience. La famille d'abord. Et il faut sensibiliser les familles. Les familles doivent être prêtes à accepter cette différence. Parce que c'est cette différence qui choque. C'est cette différence qui fait peur. C'est cette différence qui effraie. C'est cette différence. Alors on doit se préparer à accepter cette différence. Et accepter que l'enfant qui arrive a toutes les capacités, toutes les facultés, on voit des personnes avec albinisme terminer l'université de Kinshasa, même si dans la plupart des cas, il y a encore des parents qui les cachent et tout, mais on le voit terminer l'université de Kinshasa. On le voit de plus en plus commencer à prendre des responsabilités. On a aujourd'hui le secrétaire général de ministère délégué en charge de personnes vivant avec handicap. C'est une personne atteinte d'albinisme. Donc il y a des responsables, ils sont intelligents. Et c'est une question de nettoyage. J'ai parlé au début des pesanteurs culturels. Il faut travailler sur le pesanteur culturel pour faire comprendre, amener la population en commençant par la famille, les parents. Parce que si les parents acceptent, et ils vont influencer aussi la famille élargie, ils vont influencer la communauté, l'école et le consort pour l'acceptation de la personne vivant avec albinisme. Et cela sera très positif, très favorable envers les concernés, parce que ça va relever leur morale, et ça va construire leur morale, et ça va les sécuriser dans toutes leurs entreprises.
On se rend compte que Madame Brigitte Uyeli a beaucoup de choses à dire par rapport à ces sujets. Madame, on va revenir à vous. Comme je le dis, on va aborder un autre aspect de cette édition spéciale par auditeur en direct de la salle des conférences de la MONUSCO ici à ETEX Africa. On va aborder la deuxième partie du sujet, plutôt de cette édition spéciale avec notre invité, Monsieur Chad Chinamou, qui est pédagogue. Bienvenue si vous nous rejoignez sur l'Africain de la paix, c'est votre magazine des champs citoyens. Parole aux auditeurs. Aujourd'hui, nous sommes en direct de la salle des conférences de la MONUSCO ETEX Africa, ici à Kinshasa, sous vos applaudissements. Voilà, merci. Merci au public de marquer sa présence cette fois-ci. On va se tourner vers Monsieur Chad Chinamou, qui est pédagogue. Et avec lui, je l'ai dit, on va parler des défis que rencontrent des personnes vivant avec albinisme pour leur éducation. Monsieur Chad Chinamou, on le sait, on a même abordé cet aspect des choses bien souvent. Il arrive que les enfants atteints, les personnes vivant avec albinisme ont souvent des problèmes dans leur éducation, alors qu'on a vu ceux qui ont pu émerger, des personnes qui ont pu émerger. On a vu aujourd'hui des personnes vivant avec albinisme qui ont fait l'université et qui ont pu s'affirmer au sein de la société. Alors, dites-nous, de façon générale, les difficultés que rencontrent les personnes vivant avec albinisme pour leur éducation.
Merci beaucoup, Monsieur Marcel, pour la parole. Avant toute intervention dans le sens de votre question, j'aimerais, tout en étayant Madame Brigitte qui a été intervenante tout à l'heure, que c'est dans la diversité que l'on reconnaît la grandeur de Dieu. Alors si ce qui existe n'était pas diversifié, on aurait pensé que l'homme aurait créé quoi que ce soit. Alors, la réalité que rencontrent les personnes vivant avec albinisme en milieu scolaire sont diverses. Et sachez-le, il n'y a personne qui puisse parler correctement d'une situation si lui-même n'est pas dans la situation. Moi qui vous parle, je suis personne atteinte d'albinisme, mais je suis professeur, disons enseignant à l'école secondaire, déjà depuis 10 ans, et en tout cas, j'aimerais parler de ma propre expérience d'abord pour m'intégrer dans ce monde de l'école. En tant qu'enseignant, d'abord, ça n'a pas été facile. Il est arrivé des moments où, pour me recruter, moi, certains préfets d'études ont ouvertement dit que c'était impossible, c'était difficile, c'était compliqué que les élèves puissent m'admettre étant donné ma situation, ma couleur de peau. Vous voyez un peu ce que ça peut donner. Alors si, à mon niveau, à moi, ça a été compliqué en tant qu'enseignant, pour les élèves, ça n'a pas été facile, ce n'est pas facile du tout, parce que on se rend compte qu'il y a parmi nous une personne qui diffère de la couleur qui diffère de nous de par sa couleur de peau, une personne qui, certainement, en tout cas selon les avis, ne réfléchirait pas comme nous, ne se comporterait pas comme nous, alors on devrait la mettre de côté et la voir comme nous pensons. C'est très compliqué, c'est très compliqué. L'adhésion ou l'accessibilité, l'intégration de la société scolaire par les personnes ou les enfants, les élèves vivant avec albinisme, est très compliqué, très difficile.
Et Monsieur Chad, aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons connaître de vous? Qu'est-ce que nous pouvons connaître de vous et de vos expériences?
Oui, j'étais en train de le dire de façon presque implicite. Ce que vous pouvez connaître de moi, c'est que bon, j'ai fait des études universitaires. Madame Brigitte n'a pas cessé de le dire, Monsieur Marcel non plus, et vous, Blessing, vous n'avez pas cessé de le dire non plus. Des études universitaires, avec toutes les réalités qu'il y a eu, je les ai quand même faites. J'ai fait 2 années de droit à l'université de Kinshasa, et par après, j'ai affronté l'université pédagogique. Je suis allé à l'université pédagogique, sachant que je serais pédagogue, et donc voué à l'enseignement presque toute ma vie. J'y allais, tout en sachant que la société ne me permettrait pas, ne me faciliterait pas la tâche en ce qui concernerait l'intégration dans le monde de la pédagogie. Mais avec les encouragements de ma famille, avec le soutien de mon entourage, de mes amis, des personnes qui ont su m'accepter comme j'étais, tout en faisant confiance à ma tête, bien évidemment, parce que, comme Madame Brigitte le disait, il n'y a pas de déficience mentale, intellectuelle ou quoi que ce soit sur les personnes vivant avec albinisme du fait de leur couleur de peau, de leur différence. Alors, les personnes qui comptaient sur ma tête, qui avaient confiance en moi, m'ont encouragé, je suis allé, j'ai obtenu ma licence en lettres et civilisation latine. Vous pouvez le comprendre par mon expression. Voilà. Alors, je l'ai obtenu et j'ai intégré le monde de l'enseignement avec toutes les difficultés que j'ai décrites. Je l'ai intégré et voilà, aujourd'hui je suis enseignant depuis 10 ans déjà. J'ai fait passer beaucoup d'enfants par le banc de l'examen d'État. Ils sont pour la plupart licenciés, maîtres, magistrats aujourd'hui. Je suis fier d'avoir été leur professeur et eux aussi, là où ils sont, je suis certain qu'ils sont fiers de m'avoir eu comme professeur. J'ai connu beaucoup de réalités, beaucoup. Je n'apprends à personne, surtout pas aux personnes qui, ici, comme moi, sont atteintes d'albinisme. Je n'apprends à personne les réalités auxquelles on fait face chaque jour. Je vous décris ici une petite expérience désagréable, amère en tout cas, qui a marqué négativement. Alors, s'il n'y avait pas eu le concours de mes parents et de ma famille, je me serais dérouté mentalement, moralement. Je rentrais de l'école, la voiture n'était pas venue me chercher. J'étais en quatrième primaire. Un monsieur, qui était en compagnie de son ami, s'est permis de prendre une et de vouloir me la jeter dessus. Je n'avais pas compris sur le moment. Quand je suis rentré, j'ai essayé de réfléchir, j'ai posé des questions. C'est la première fois que je comprenais que j'étais différent des autres. Et je me disais, c'est parce que je suis différent que je devrais mériter la lapidation. J'étais vraiment... J'étais terrifié, mais plus tard, j'ai su comprendre que je n'étais pas si différent que ça. Aussi longtemps que je réfléchissais, comme tout le monde, aussi longtemps que je vivais comme tout le monde, je pouvais prendre la parole et émettre un avis qui pouvait être admis par l'opinion, alors j'étais comme tout le monde.
Voilà, justement, merci de l'applaudir et de l'encourager pour sa détermination. Vous avez remarqué, c'est vraiment, vraiment un exemple à suivre. Il a su braver tout ce qu'il avait comme préjugé autour de lui. Il a su braver tous ses préjugés. Et voilà, aujourd'hui, il est devant nous. Il est enseignant. C'est vraiment encourageant. Encore une fois, vos applaudissements pour l'encourager.
Oui, exactement, monsieur Chat. En tout cas, ça a été très brave de votre part de surmonter toutes ces épreuves dont vous avez eu à faire face. Alors, en dehors de tous ces problèmes, de tous ces préjugés, de toutes ces réalités concrètes que vous avez à vivre, quels sont d'autres problèmes? Y a-t-il d'autres problèmes que les personnes atteintes d'albinisme font face ou les élèves atteintes d'albinisme font face durant leur scolarité et que vous avez eu à faire face?
Merci beaucoup pour la question. En dehors de raillerie, en dehors de stigmatisation que connaissent les personnes atteintes d'albinisme en milieu scolaire, il y a des réalités dues à leurs conditions, hein, et vous ne l'ignorez pas. Il y a des problèmes de vision, ça c'est un problème inhérent aux personnes vivant avec albinisme. Il y a ce problème de vision qui ne permet pas ce que certaines facilités puissent leur être accordées. Par exemple, on ne peut pas se permettre quand on est personne vivant avec albinisme d'être au dernier rang. C'est compliqué. Surtout si on n'a pas des lunettes de vision. Là, c'est vraiment compliqué. Donc, on doit se pourvoir des lunettes de vision pour surmonter ces problèmes. Il y a des problèmes... Là, c'est en tout cas pour l'enseignement. Il y a des problèmes de peau, parce que très souvent, vous voyez, avec la discipline de l'école, il y a des rassemblements à exécuter, il y a tout cela, des punitions même à exécuter, parce que un enfant vivant avec albinisme n'est pas différent, n'est pas à traiter différemment d'autres enfants. Si on doit admettre qu'il est une personne comme les autres, alors on doit la soumettre à toutes les réalités, toutes les conditions auxquelles sont soumis les autres, bien évidemment. Même si on aura quelques nuances, c'est vrai, mais il y a tous ces problèmes-là. Donc les problèmes de la peau, quand il s'agit de se mettre en rassemblement, le soleil n'est pas clément envers ou vis-à-vis de la peau de la personne vivant avec albinisme. Alors il faut vraiment prendre des précautions, traiter avec beaucoup d'égard, avec beaucoup de clémence ces personnes-là pour leur faciliter d'étudier facilement et en toute quiétude.
Voilà, émission spéciale Parole aux auditeurs depuis la salle des conférences de la MONUSCO ici à Aix-Afrique à Kinshasa. Vous avez suivi tour à tour à nos deux invités. Madame Brigitte Yelik, doctorante en anthropologie à l'Université de Kinshasa, qui nous a parlé de l'intégration sociale des personnes vivant avec l'albinisme, manière d'essayer, mais aussi de Monsieur Tchad Chindamou, pédagogue, avec nous avons parlé des défis que rencontrent les personnes vivant avec albinisme pour leur éducation. Maintenant, c'est à votre tour, le public, de poser quelques questions par rapport à ces deux sujets, et vous aurez à lever votre main, à vous présenter Blaise Chindani, qui est là, à vous donner le micro. Blaise, on commence, allez-y. Vous présentez et puis vous posez votre question. Soyez précis et court parce qu'on court déjà derrière le temps.
Tout à fait. Je suis Maître Kalala. Ça passe. Maître Kalala Luc. Je suis coordonnateur de l'ONG ADIDH. Alors, ma question s'adresse précisément à Madame Rose. Oui, nous avons compris la résilience. Madame Brigitte. Alors, qu'est-ce que vous préconisez pour éviter que nous puissions connaître la redondance ou la recrudescence de ces préjugés d'une manière concrète?
C'est Madame Yolande Kayoko de la Fédération congolaise des personnes en situation de handicap et moteur. Et quelle est la politique de l'État congolais à propos de cette catégorie?
Merci. Une autre question dans la salle.
Je suis Crispin Kobolongo Kongunde, défenseur des droits de l'homme et président de l'ONG Action contre les violations des droits des personnes vulnérables, ACVDP en sigle. C'est une contribution par rapport au pesanteur culturel dont Madame a fait allusion. Comme nous le savons, ça fait presque 2 ans que la RDC a une loi portant protection des personnes vivant avec handicap. Et c'est dans cette loi où on retrouve des articles qui luttent tout juste contre ce genre de pratiques dont sont victimes les personnes vivant avec albinisme. Ici, je propose à ce que, demain après demain, l'État congolais puisse mettre sur pied une politique tenant compte des personnes vivant avec albinisme, construire des salles adéquates qui tiennent compte de tout ce que notre ami venait d'évoquer tout à l'heure.
Voilà, merci. On a compris votre contribution. Merci de l'applaudir, donc vous interpellez à l'État congolais. Une autre intervention, question, okay. Je ne sais pas.
D'accord, merci beaucoup. Moi, c'est Eric Kasonga, Wakasonga. Je suis le secteur général de l'organisation Action pour Albinos en RDC. Donc, nous avons fait certaines recherches par rapport à la stigmatisation et la discrimination par rapport à cette catégorie de la personne, mais on avait constaté qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, d'ailleurs, bien des personnes atteintes d'albinisme, comme nous avons toujours voulu les appeler, et il y a beaucoup de gens qui se discriminent d'abord. Pourquoi ? Parce que juste pour accéder à une inclusion sociale ou bien dans inclusion professionnelle, c'est tout un problème. Des personnes atteintes d'albinisme sont acceptées dans la société. Pourquoi? Parce que nous avions beaucoup pensé à cela qui soit accepté aussi, rapproché auprès des autres. J'ai étudié, je suis Eric Kasonga, je suis journaliste aussi. Je suis coach en entrepreneuriat, je suis dans beaucoup de choses. Je suis en train de coacher même personnes non albinos. Pourquoi? Parce que il y avait donc des préjugés dans leurs pensées, dans leurs considérations. C'est ce que je voulais juste dire à madame, que c'est une matière aujourd'hui qui doit être propagée dans notre société, surtout dans des coins reculés. C'est là que beaucoup de gens ne comprennent pas les problèmes d'albinisme. Bon, que faudrait-il faire pour des personnes atteintes d'albinisme pour leur intégration ou inclusion en Afrique?
Je suis Monsieur Mouimba Glody.
Oui.
Ma question, c'est, je pose l'enseignant. Durant votre parcours, est-ce que vous avez déjà pu encadrer aussi des enfants albinos?
Donnons le temps rapidement à nos invités de réagir. Ensuite, on va prendre 3 questions et puis on va conclure. Madame, allez-y.
Merci beaucoup, Madame Astrid Tamboué. Je suis la présidente du conseil d'administration du ReproDev. Je crois que la RDC a fait un grand pas avec l'institution du ministère en charge des personnes vivant avec handicap, qui prend en charge aussi les personnes vivant avec albinisme. Mais ce qui me préoccupe, c'est qu'il y a eu beaucoup de décisions qui ont été prises. Mais si je prends par exemple le gouvernement qui est sorti, on n'a pas pris en compte toutes ces décisions. Enfin, je voudrais dire que dans notre pays, ce n'est pas un problème des textes ou des politiques qui se posent. Le problème, c'est la mise en application de toutes les décisions que nous devons prendre. Et Madame Brigitte, je sais qu'elle est dans ses recherches. Je crois qu'un grand plaidoyer par rapport à la mise en œuvre des décisions est très important. Merci.
Voilà, merci beaucoup, Madame. Madame Bougé, si vous voulez réagir rapidement, encore derrière les temps, comme ça également, Monsieur Chad Chindamou pourra réagir. Vous avez la parole, Madame.
Merci beaucoup. Je crois que les questions se recoupent sur l'intégration. Qu'est-ce qu'en tant que chercheur, qu'est-ce qu'on doit faire par rapport à la recherche qu'on sort? Ce que je voudrais vous dire en premier lieu, c'est que les recherches sur la question du handicap, les recherches sur les questions de personnes vivant avec albinisme sont très peu dans notre pays. Donc ce qu'il faudra faire, il faudra intensifier, multiplier les recherches et voir tous les aspects qui discriminent la personne vivant avec albinisme. Mais aussi, quelqu'un l'a dit, quand on fait des recherches, c'est pas pour le mettre dans les tiroirs. Vous allez à l'université de Kinshasa, vous trouverez un lot de recherches, mais c'est gardé dans les tiroirs. Faut chercher de voies pour vulgariser ces recherches. Mais il faudrait, j'insiste là-dessus, il faudrait, pour ce qui concerne la personne vivant avec albinisme, il faudrait insister, s'appuyer, renforcer nos sensibilisations, nos activités sur les bases des données empiriques, c'est-à-dire les données qui proviennent de terrain, que disent les personnes vivant avec albinisme, qu'est-ce qu'ils veulent et comment on peut évoluer avec. Il ne faut pas les développer sans eux, mais construire ensemble avec eux, avec leurs besoins, avec leurs desiderata, et on continue, on construit avec eux sur base des données empiriques récoltées sur le terrain et analysées, et produit et divulguer. Et pour divulguer, il ne faut pas attendre seulement le chercheur pour divulguer. Il faudrait un réseautage, les chercheurs, avec d'autres parties prenantes, les associations, le gouvernement et les autres. Mettons-nous ensemble et sans oublier les personnes concernées. Merci.
Ah, merci, Madame Brigitte Ieli. Alors, il y avait également ces questions pour Monsieur Chad Chindamou.
Merci beaucoup pour la question. Je dirais oui. Là où je suis, il y a une fille atteinte d'albinisme qui passe en cinquième ou troisième année scientifique aujourd'hui. Et j'ai même eu à l'examen d'État où jury pratique des élèves atteints d'albinisme aussi.
On va prendre deux questions et puis on va clôturer avec nos invités. Voilà, vous avez la parole, monsieur.
Merci, moi c'est monsieur Gilles Kalala. Je suis coordonnateur de la Fondation Gilles Levôtre, une structure qui s'occupe des enfants atteints d'albinisme et de leur mère. Nous lançons d'ici peu un projet Kelasi, qui va accompagner 100 enfants atteints d'albinisme de Kinshasa, de Bandundu et de l'Équateur. Je voudrais demander à Madame Brigitte et M. Chad leur accompagnement. Merci.
Voilà, merci beaucoup. Une dernière intervention. Alors madame, allez-y d'abord, allez-y.
Merci beaucoup, je suis madame Nicole Kimbanda, je suis la présidente de l'ONG Artrida et secrétaire générale de la CICOFEDDH, Synergie Congolaise des Femmes Défenseurs de Droits Humains. Parce que vous avez dit que quand les Blancs sont arrivés ici, ils ont constaté que bon, c'était des imbéciles, des idiots, et ainsi de suite. Mais maintenant, je voudrais savoir à quel moment les Blancs se sont rendus aussi compte qu'il y avait aussi des personnes vivant avec albinisme chez eux. Parce qu'ils sont venus découvrir ici. Ça, c'est la première préoccupation. La deuxième, bon, quand vous faites des recherches, vous avez dit que l'albinisme, c'est une pathologie. Bon, quand on parle de la pathologie, moi je me dis qu'on peut soigner, qu'on peut trouver. Alors, quels sont les mécanismes que vous, en tant que chercheur, vous avez mis en place pour éradiquer cette pathologie? J'ai dit.
La toute dernière intervention, désolé, il faut qu'on clôture. Allez-y, monsieur.
Moi, c'est docteur Idriss Tchebouengandou. Et j'aimerais un peu aussi vous demander que cette conférence ne se limite pas ici à Kinshasa. Mais nous vous demandons aussi que ça puisse aussi aller même dans nos provinces. Là, je parle de ma province qui est Kasaï Central, qui a les taux des albinos élevés. C'est ma province. J'aimerais un peu poser la question à Madame
Brigitte Ieli.
Brigitte. Ici, vous parlez, il y a la personne atteinte d'albinisme et les personnes vivant avec albinisme. J'aimerais que vous puissiez un peu nous expliquer. Qu'est-ce que nous pouvons retenir? Quand est-ce qu'on parle d'une personne vivant avec albinisme et quand est-ce qu'on parle des personnes atteintes d'albinisme? Nous avons la loi protection...
des personnes vivant avec handicap.
Ok. Maintenant, dans cette loi, on a dit la loi... c'est une loi de protection des personnes vivant avec handicap et autres vulnérables. C'est ça, non? Mais quand vous parlez que nous vivons avec l'albinisme, donc l'albinisme c'est une maladie. Si c'est une maladie, quelles sont les dispositions que vous faites pour nous? Parce que nous avons les personnes atteintes de VIH, ok? Les personnes atteintes de trypanocytose. Les personnes atteintes de diabète, ainsi de suite. Mais pour les personnes atteintes d'albinisme...
Voilà, merci beaucoup, M. Idriss, on a compris. Et puis la dernière réaction de voilà, madame, vous présentez votre réaction. On vous écoute, madame, allez-y.
Merci beaucoup pour la parole. Je réponds au nom de madame Mireille Kadima. Je suis de la structure Fière de l'être. En fait, c'est pas une question, c'est juste une demande que je suis en train de demander à tous les intervenants de la journée. Pour Madame Brigitte, vous voyez, les albinos qui ont eu à émerger aujourd'hui, nous l'avons fait par notre propre effort. Nous nous avons battus seuls. Dès que vous nous exposez votre exposition, oui, c'est bien bon. Mettez ça en pratique. Parce qu'il y a celles-là qui souffrent de la discrimination au milieu professionnel. Il y a celles-là qui souffrent de la discrimination. Vous pouvez dire aujourd'hui, oui, c'est bien bon. Descendez sur terrain et voyez si réellement il y a cette différence que vous êtes en train de dire. Et de l'autre côté, je veux aussi qu'il puisse y avoir la représentation sur tous les niveaux possibles de la personne vivant avec albinisme. Je veux du côté de l'éducation avec monsieur Tchad.
Monsieur Tchad de Tindamoui.
Oui, j'aimerais bien qu'il puisse y avoir un mécanisme quelconque auquel on doit suivre de près les enfants vivant avec albinisme à l'école. Parce que nous avons eu à avoir de souffrances pour étudier, pour s'avancer au tableau, pour voir. Des fois, il y a les autres que vous injuriez, les autres qui se moquent de vous parce que vous avez un problème de vision. Parce que le problème de vision, c'est notre problème quotidien. J'aimerais bien qu'il puisse y avoir l'organisation, soit les suivis par rapport à ces enfants. Donc, c'est ça, c'est juste la demande que je...
Voilà. Merci beaucoup, madame. Désolé, messieurs, on est vraiment à la fin. Désolé parce que... Autrement, les autres m'en voudraient si on ne leur accorde pas la parole. Ah bon. Allez-y, vous avez 30 secondes.
Voilà, ma question est de ça, parce que comme on parle de la personne atteinte d'albinisme, j'aimerais savoir quelles sont les précautions que vous prenez par rapport à l'anomalie des cancers qui affecte la peau des albinos au Congo. Voilà, c'est ça ma préoccupation.
Voilà, merci beaucoup Madame Brigitte Eli, vous allez réagir et puis ça sera votre conclusion également. Monsieur Tchad Tindamou va également réagir, ça sera aussi sa conclusion. On vous écoute, madame.
Merci de l'intérêt que vous accordez à cette question. Et je pense que, comme je l'avais dit, pour contribuer à l'autonomisation des personnes avec albinisme, il n'est pas question d'une seule catégorie sociale. Il faut la conjugaison des efforts de toutes les parties prenantes au développement. Ça, c'est un. De deux, quand je parlais des observateurs coloniaux qui sont venus et qui ont découvert tout ça, c'est pas seulement en RDC, c'est à travers le monde. Et il faut noter que l'albinisme ne choisit pas de race, n'a pas d'ethnie. C'est une question internationale dans toutes les tribus ou partout ailleurs. On peut le trouver même en Europe. Ils ont des roues, ce sont des personnes vivant avec albinisme. Mais il faut noter que quand les colons étaient venus, ils vous traitent des indigènes, c'est pas dit que chez eux il n'y a pas de comportement qui font des différences entre les différentes sociétés. Et pathologie. Oui, lisez toutes les écritures, L'albinisme, c'est une maladie. Jusque-là, on n'a pas trouvé de traitement pour le guérir. Moi, je suis anthropologue, je ne fais pas la médecine, mais je suis en contact avec des médecins, je suis en contact avec les dermatologues. Jusque-là, on n'a pas encore trouvé le traitement pour guérir et tout ça. Et donc, on vit avec ça. On vit avec ça. Mais le problème, c'est pas l'albinisme. Le problème, c'est ce que je dis, c'est ce qui se trouve dans le mental. Ce qui se trouve dans nos mentaux qui le rend albinisme. Et maintenant, je prends l'albinisme comme une discrimination. Parce que une souffre, c'est vrai qu'ils peuvent souffrir par rapport à la peau, par rapport aux yeux et qu'on sort. Tout le monde peut tomber malade, peut souffrir. Moi, si j'enlève mes lunettes, je peux pas lire. Je deviens vraiment handicapé, je peux pas lire. Mais c'est pas pour autant qu'ils sont discriminés. Ils sont discriminés parce que la population n'accepte pas la différence. Et ils sont discriminés parce que vous-même ou elles-mêmes n'ont pas compris qu'il faut, ou bien ils n'ont pas compris qu'ils doivent lutter contre ça. Ils doivent sortir de la lutte intérieure qu'ils ont, parce que est-ce que nous sommes bien, nous sommes bien construits, nous sommes bien faits, nous sommes contrefaits et qu'on sort. Il faut sortir de là et avec le soutien de la communauté, en commençant par les membres de la famille, et là on va évoluer. Et là j'applaudis et nous avons besoin de beaucoup de Tchad, nous avons besoin de beaucoup d'Eric, nous avons besoin de beaucoup de Julio qui témoignent, qui sensibilisent par leur témoignage. Et là, on en a vraiment besoin, et surtout pour les jeunes générations de personnes vivant avec albinisme, ils vont comprendre, non, nous devons pas nous faire marginaliser, nous devons pas nous laisser marginaliser, et la société aussi doit comprendre, non, ce sont des gens capables, et nous devons leur accorder beaucoup de valeur, et on doit construire ensemble. Et c'est là où on va aborder les instruments internationaux. On a dit il faut la politique de l'inclusion, nos livres sont moins bien, déconstruisons ensemble, ainsi de suite. Donc je pense que c'est un peu ça que je voulais dire. Et pour Julio, vous avez mes coordonnées, on peut toujours interagir, et si quelqu'un veut, on peut toujours interagir. Je suis ouverte pour les échanges. Merci.
Merci beaucoup pour Madame Pugitelli. Je rappelle que vous êtes doctorant en anthropologie à l'Université de Kinshasa. Merci d'avoir été des nôtres. On va également nous tourner vers Chad Chimdamnou. Vous allez rapidement réagir et puis vous aurez également, on aura également à vous remercier.
En tout cas, je ne cesserai de vous remercier pour cette faveur, cette occasion que vous m'avez accordée d'intervenir sur votre plateau, Monsieur Marcel. Et Mademoiselle Blessing, je vous suis vraiment reconnaissant. J'aimerais juste passer un dernier message à tous mes confrères et toutes mes sœurs atteintes, ou disons vivant, avec albinisme. En ces termes, vous permettez, Monsieur Marcel, que je parte de cette petite expérience ou cette petite question de mon professeur de biologie, celle de savoir pourquoi j'étais si intelligent. Il avait rencontré auparavant un élève vivant avec albinisme qui était aussi intelligent que moi. Alors il se disait, est-ce que c'était... Alors je lui ai répondu en disant que Dieu, lorsqu'il décide de vous priver de quelque chose, il développe quelque chose d'autre en vous. Et je suis sûr, je suis convaincu que ce n'est pas parce qu'on vit avec handicap, avec albinisme, qu'on est moindre, mais Dieu a su développer quelque chose de positif en nous. Cherchons-le en nous et mettons-le à profit. Je vous remercie.
Voilà, applaudissez également pour M. Chad Chimdamnou. Je rappelle que vous êtes pédagogue. Merci d'avoir été des nôtres. On espère vous retrouver prochainement. Voilà, c'est par ici qu'on va clore ce numéro spécial par nos auditeurs depuis la salle des conférences de la MONUSCO ici à Tuxafrica. Mais je m'en vais quand même donner un petit mot avant de clôturer à ma co-animatrice Blessing Kassa. C'est un petit mot pour le public.
Oui, exactement. Nous vous remercions beaucoup d'avoir eu le plaisir de participer à cette émission et à tous les autres qui nous suivent partout ailleurs. Mais pour compléter Madame Brigitte, jusqu'en ces jours, il n'y a pas toujours de solution pour des personnes atteintes d'albinisme, mais il y a quand même des examens qui sont faits à l'Université de Kinshasa pour détecter si vous êtes porteur de gènes d'albinisme. Et surtout, voilà. Nous remercions l'équipe de production, Blessing Dani, Julie Feza et à toute l'équipe technique.
mais aussi un grand merci au Bureau conjoint des Nations Unies, notre partenaire pour la production de cette édition spéciale Parole aux auditeurs, en direct de la salle conférence Monisco à l'UTEX Africa, ici à Kinshasa.
Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis à la présentation. C'était Marcel Gomombala. On espère vous retrouver prochainement. Bye bye. Bye.